L'Iris publie une étude ce matin, je pense que c'est publié. Étude fort intéressante, un peu inquiétante, quoique il y a deux, trois affaires qu'il faut qu'on m'explique. En gros, ce qu'on dit, c'est que il y aurait une pénurie de logements, crise du logement, là, à l'échelle provinciale d'ailleurs, principalement dans les villes de, dans la ville de Montréal. Aussi à Rouyn-Noranda et à Gatineau, là, c'est les endroits où ce serait le plus, les endroits qui seraient le plus touchés. Crise du logement parce que, grosso modo, là, quand le taux d'inoccupation, donc le taux de logements qui sont inoccupés de 3%, on dit que c'est un genre d'équilibre, OK? Donc, dans les villes que je viens de vous citer, Montréal, Gatineau, Rouyn-Noranda, on est plus proche de 1,9 respectivement et 1,2% pour les deux autres. Donc, on est bien en deçà du 3%. Exact. Donc, il y aurait trop peu de logements disponibles par rapport au nombre de personnes qui en cherchent. Depuis à peine quelques années, le taux d'inoccupation est passé de 4,2 à 2,3. Donc, tu vois que ça a baissé de manière draconienne. Mais ce que dit l'Iris dans son étude, c'est que cette crise-là pourrait être permanente. Comment ça se fait? On en parle aujourd'hui avec Philippe Hurteau, qui est chercheur à l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, et qui signe cette étude. Bonjour, Philippe Hurteau.
Bonjour.
D'abord, expliquez-nous, grosso modo, comment ça se fait que cette crise-là, comment ça se fait que vous prévoyez que cette crise-là puisse être permanente?
Ben, en fait, la crise peut être permanente au sens où, présentement, c'est vraiment deux dynamiques là, qui se croisent, qui se rencontrent. D'abord, vraiment, et là, si on parle vraiment un portrait là, à la grandeur de la province, un rétrécissement, un resserrement de la disponibilité des logements qu'on calcule avec l'évolution du taux d'inoccupation. Plus qu'il est bas, moins qu'il y a de logements disponibles, finalement. Donc ça, c'est une première affaire. Et de l'autre côté, une tendance qui, elle, est pas récente, mais qui est celle d'une évolution des loyers, les loyers qui augmentent plus rapidement, par exemple, que les recommandations de la régie du logement, plus rapidement que l'inflation et plus rapidement que le revenu moyen des locataires. C'est la rencontre de ces deux dynamiques-là qui fait craindre le pire, parce que il faut bien comprendre que quand on a fini par se sortir de la crise du logement du début des années 2000, il n'y a pas eu d'impact direct ou pas d'impact très fort, à tout le moins, sur l'évolution des loyers. Donc, on se dit, ben, si la pénurie se termine en 2006, 2007, 2008, ça va calmer les loyers. Ça les a pas calmés. Ils ont continué d'augmenter malgré tout. Et là, qu'on revient en situation de pénurie, ben, ça laisse envisager vraiment des augmentations assez importantes là, au niveau des coûts de loyer pour les locataires, en même temps qu'on construit pas vraiment plus de logements locatifs, pas plus de logements sociaux, qu'il y a toujours davantage de logements locatifs qui se retirent du marché à cause d'applications comme Airbnb.
Ouais.
Et effectivement, ça fait craindre le pire pour la suite.
On va y revenir d'ailleurs à Airbnb, mais pour illustrer la situation, là, grosso modo, combien on devrait payer en proportion de notre revenu pour se loger dans une situation, disons, normale, et combien les gens payent à l'heure actuelle pour leur logement par rapport à leur revenu?
Ben, regardez, la moyenne des locataires là est autour du 24% là, grosso modo, c'est-à-dire le ce que les gens utilisent comme le revenu moyen même le revenu avant impôt en fait là, ouais. pour donner leur loyer. Mais ça, c'est simplement le loyer, ça compte pas l'assurance, ça compte pas l'électricité, bon, etc. Ce qu'on considère, c'est que au-delà de 30% comme coût global d'habitation, les gens donnent une trop grande part de leur revenu pour les frais d'habitation. Présentement, c'est à peu près le portrait général de la moyenne des locataires, parce que si en moyenne, ils investissent 24% de leur revenu pour se loger, quand on ajoute à ça la totalité des frais d'habitation, on n'est pas loin du seuil du 30% qui est jugé comme étant le plafond à ne pas dépasser.
Mais à 25%, à 25-30%, on reste quand même bien en dessous de d'autres grandes villes où les gens payent encore beaucoup plus cher que ça, ben, une plus grande proportion de leur revenu pour se loger.
Ah, ben ça, c'est bien évidemment. C'est sûr que là, nous, on a fait une étude où on compare le Québec et les villes québécoises par rapport à elles-mêmes, donc à leur propre évolution. Ouais. Bien sûr, quand on se compare à Toronto, à Vancouver, ou si on va dans les villes, si on va à New York, si on va à Chicago, bon, on n'est pas du tout, ou même si on va en Europe, là, à Paris ou à Berlin, on n'est pas dans ce genre de situation-là, bien évidemment. Ce qui veut pas dire que la situation, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Par rapport à nous-mêmes, la situation se détériore, mais puisque la situation se détériore encore plus rapidement ailleurs, on peut se considérer chanceux. Le rendu là, je vous dirais que c'est à vous de voir si vous voulez voir ça positivement ou négativement aujourd'hui. La réalité, c'est que c'est plus dur pour les locataires cette année au Québec que ça l'était il y a quelques années.
Mais ça fait un petit règle du pouce rapide. rapidement, M. Hurtault. On prend quelqu'un, un ménage au salaire minimum, on est bien au-dessus de 30% du revenu disponible, là, juste revenu global. Donc, pour un... Puis j'imagine que la crise du logement touche particulièrement les personnes qui sont plus précaires financièrement, notamment les ménages à salaire minimum. Là, on est rendu à des gens qui doivent consacrer un 40-45% de leur revenu pour se loger. Ça devient particulièrement difficile et ça doit être eux, justement, qui sont à la recherche de logement.
Ben là, vous mettez le doigt précisément sur le problème. C'est que, oui, il y a les données générales, mais les moyennes, c'est bien gentil, là, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qui est effectivement touché. Et ce qu'on voit présentement, c'est, vous l'avez dit, les gens à plus faible revenu, puis pas simplement les gens en situation de pauvreté, là, les gens de la base classe moyenne, ouais. Les gens qui ont des revenus de 30, 35, 40 000 $ par année, donc des gens qui vivent là, décemment, là, ça va, mais c'est pas des gens qui vivent richement non plus. Donc, ces gens-là sont affectés. Encore plus spécifiquement, les familles, hein, les couples, les personnes célibataires avec enfants qui ont de la misère parce que, oui, les loyers augmentent, mais les loyers augmentent encore plus rapidement pour les grands logements qui sont encore moins disponibles que la moyenne des autres. Donc, là, on fait disons, une tempête parfaite. Là, c'est des personnes qui ont des bas revenus, qui ont à la fois des responsabilités parentales et qui recherchent des grands logements, et encore là, des gens qui travaillent ou qui habitent dans des quartiers centraux et non pas en périphérie. Habiter proche de son travail pour améliorer sa qualité de vie, par exemple, ça devient très, très compliqué, voire impossible.
Je vous lis un sous-titre de l'article de Radio-Canada qui se lit comme suit. L'IRIS propose d'interdire Airbnb. va falloir m'expliquer parce que moi, je suis de l'école de penser qu'un individu qui investit toutes ses économies dans un building devrait avoir la liberté de choisir la méthode pour le rentabiliser du mieux qu'il peut. Est-ce que vous proposez réellement d'interdire Airbnb?
Ben, en fait, interdire, là, le titre est un peu fort. ce qu'il faut, il faut être capable de faire la distinction entre, par exemple, moi, dans mon logement, là, je m'en vais une fin de semaine faire du camping à Charlevoix, que je loue mon logement pendant cette fin de semaine-là, ça pose aucun problème. C'est pas, ça peut poser des problèmes de voisinage, là, mais ça pose pas de problème là, au niveau de l'habitation, de la compte du logement. T'sais. Le problème actuellement, c'est que l'utilisation, ce que vous dites précisément, quelqu'un qui investit et qui, en fait, soit dans son propre logement, dont il est propriétaire, le loue pas à des locataires, mais le loue systématiquement à des gens de passage, ou une personne qui loue un loyer pour après ça simplement le sous-louer perpétuellement, ça l'enlève des loyers du marché, ça fait augmenter les coûts d'habitation également pour tout le monde. En fait, puis il faut comprendre, c'est quoi autour de 30 000 là, unités de logement au Québec qui sont retirées du marché locatif à cause de l'application Airbnb. Ça, puis en plus, ça exerce une pression sur le marché, ça exerce une pression sur les loyers et c'est une pression qui est exercée de manière très ciblée. C'est-à-dire, ben, c'est pas vraiment à Chibougamau là que les problèmes là de que ça se pose. C'est dans, encore là à Montréal, à Québec, dans les quartiers les plus populaires, les plus centraux, qui sont déjà en situation de pénurie, qui ont déjà des loyers qui augmentent plus rapidement que les indicateurs de référence. Et c'est là que Airbnb concentre l'entièreté. Ben, Airbnb concentre que les gens qui sous-louent par Airbnb sont le plus concentrés. Donc, ça vient exacerber encore davantage une situation de pénurie et il faut se rendre compte qu'un logement, c'est pas un bien de consommation comme un autre, c'est pas un toaster, c'est un besoin de base. Donc, je comprends, là, ce que vous dites, une personne qui veut rentabiliser son investissement. Mais il y a quand même une hiérarchie d'intérêts, peut-être, à ce qu'on pourrait voir, là.
Sur les besoins de la population.
Ben, c'est que tu as des toits, puis ce sont des besoins élémentaires. Mm-hmm. Avoir un toit en haut de sa tête, c'est pas un voyage
sauf, à Cuba, là. Sauf qu'en même temps, M. Hurtault, puis je me fais appeler l'avocat du diable par là, parce que je comprends, je sais ce que vous voulez dire dans les quartiers centraux, tout ça. Mais les logements qui vont être loués de type Airbnb, si quelqu'un, par exemple, achète un condo relativement luxueux pour le louer en Airbnb, c'est pas le même logement qui va être recherché par la famille avec à faible revenu. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Donc, à quel point ça cannibalise les besoins de ces personnes-là?
Ah oui, mais bien entendu, là, il y a une différence. Quand je disais tantôt, ça retire 30 quelques mille unités de logement locatif du marché. Il faut rajouter à ça aussi l'enjeu des condos. C'est pas le même impact. Là, en fait, c'est une autre une autre perspective. Regardez, le problème, c'est que depuis 20 ans, précisément, en fait, on n'a pas de politique d'habitation au Québec. On a grosso modo dit aux promoteurs, allez-y, puis ça va combler les besoins. Les promoteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé des condos, majoritairement, mais là, très vastement majoritairement, des 3,5, des 4,5, des 5,5. Beaucoup de condos faits pour des jeunes célibataires professionnels ou en couple, finalement. C'est bien gentil de développer du logement pour les jeunes professionnels, jeunes et en couple, mais ça répond pas à l'entièreté des besoins de la population. Et là, on a d'un côté une surabondance d'un type de logement, le petit condo, qui effectivement peut être loué sur Airbnb sans que ça dérange trop, à part des enjeux de voisinage. Mais de l'autre côté, on n'a plus, en quantité suffisante, des 6,5, des 7,5 pour aménager pour les besoins des familles. Donc là, c'est peut-être pas en luttant contre Airbnb que ça serait la solution à ce problème-là, mais c'est que s'assurer, par exemple en imposant des quotas, que dans chaque nouveau développement, là vraiment en ciblant les nouveaux développements qui sont dans les quartiers les plus sensibles, si on construit une tour de 60 condos, il faut s'assurer d'avoir, par exemple, 20 % de logements locatifs à l'intérieur pour s'assurer un maintien d'équilibre dans le marché, pour s'assurer que la diversité des besoins d'habitation soit comblée, ce qui n'est pas le cas présentement.
Et là, vous proposez aussi d'octroyer à la régie du logement le pouvoir d'imposer une hausse maximale du coût du logement. Moi, je suis locataire. Fait que c'est sûr, je trouve ça intéressant comme proposition parce que ça me favoriserait. Mais tous les propriétaires de logements locatifs, eux, ils disent, regardez, là, la régie du logement nous empêche de mettre à la porte de mauvais locataires, nous empêche de faire plein d'affaires, ça favorise systématiquement le locataire. Donc, à un moment donné, les gens veulent soit faire du Airbnb parce que c'est plus simple pour eux autres, ou n'investissent plus dans le logement puis veulent plus acheter des buildings pour en faire du logement. Alors là, il y a une contradiction aussi, là, il y a un problème.
Ben, il y a encore là, effectivement, il y a un problème. Il faut se rappeler, hein, quand on dit que la régie avantage systématiquement les locataires, c'est parce que dans le rapport de négociation entre locataires et propriétaires, c'est pas un rapport égalitaire, là. Il y a un qui possède le logement, qui peut louer un peu à qui il veut, et l'autre qui veut chercher une place pour habiter,
mais histoires d'horreur, M. Hurtault, on s'en fait raconter.
Je vais vous donner
un
exemple concret, M. Hurtault, parce que ma copine représente notamment les gens de la Corpic, là, à la régie du logement, puis des cas où est-ce que c'est pas une question de rapport, là, mais je vais vous donner un exemple d'un locataire qui a une infestation de coquerelles dans son logement, mais il ne laisse pas entrer son propriétaire pour qu'il s'en occupe, et comme le propriétaire peut pas rentrer, l'infestation de coquerelles s'est propagée dans le building au complet. Je pourrais vous en raconter pendant une heure et demie de temps.
Mais si vous me permettez de vous dire, je comprends tout à fait ce que vous dites là, mais ça n'a pas beaucoup, ça n'a pas grand-chose à voir avec la capacité de fixer ou non les loyers. Parce que ça, effectivement, est-ce qu'il y a des choses à revoir pour permettre des enjeux de salubrité?
C'est ça.
Je crois sur parole, là, c'est pas ça, je veux bien. Mais...
Ça a surtout à voir, M. Hurtault, avec le rapport de force entre le locateur puis le locataire, qui honnêtement favorise quand même. Je suis locataire puis je l'admets, ça favorise quand même le locataire. Puis je pense que ça dissuade bien des gens d'investir dans l'immobilier puis dans le logement locatif, ce qui fait que au volume, il y en a moins.
Oui, peut-être, mais de l'autre côté, regardez, là, tant qu'à faire l'avocat du diable, de l'autre côté, la situation actuelle fait en sorte que les locataires paient une part toujours plus grande de leurs propres revenus pour se loger sans nécessairement avoir d'amélioration non plus de leurs conditions de logement. Donc, le modèle actuel, il fait pas tant que ça non plus l'affaire des locataires, parce que si c'était si outrageusement à l'avantage des locataires, on verrait pas d'augmentation des loyers. Les loyers seraient stables ou tendraient à diminuer, ce qu'on voit pas non plus. Mais c'est pour ça que je vous dis, le pouvoir très grand de la régie, il faut pas non plus l'exagérer, parce que la réalité, c'est que la très, très vaste majorité, 99% et plus des loyers au Québec, sont décidés hors recommandation de la régie du logement.
Ça c'est un fait. Ça, vous avez pas tort, Monsieur Hurtault, par contre, et je rejoins plusieurs auditeurs qui nous le font parvenir via texto. Le fait que la littérature économique démontre notamment que les lois sur le contrôle des hausses des loyers, et ce, un peu partout à travers le monde, ont tendance à diminuer la quantité et la qualité des loyers, justement parce que mon collègue Paul mentionnait, c'est-à-dire le fait que moins de gens veulent se lancer dans l'immobilier en raison de ces restrictions-là. Est-ce que ça se peut aussi que cet élément-là joue, c'est-à-dire que, je donne l'exemple des tenanciers de taudis là, à Montréal, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a moins à Québec, on est plus chanceux un peu. Mais à Montréal, vous avez de ces gens-là qui se lancent là-dedans parce qu'ils savent qu'ils peuvent offrir des logements qui coûtent à peu près rien, mais qui sont dans des conditions épouvantables, dignes du tiers-monde. Est-ce que ne pas laisser davantage de liberté aux propriétaires, ça n'encouragerait pas de bons propriétaires, de bons tenanciers à avoir des loyers? Peut-être oui, un peu plus cher, mais au moins qui assure aux locataires une bonne qualité de vie?
Mais Théoriquement, vous n'avez pas tort. Théoriquement, vous n'avez pas tort. La loi, les lois de l'économie disent grosso modo ce que vous venez de dire. Concrètement, ceci dit, la conséquence de ça, c'est que les revenus des locataires sont pas flexibles à ce point-là, sont pas... La conséquence, ça veut donc dire que oui, peut-être que si les loyers augmentent davantage, surtout dans certains quartiers plus en demande, qu'on laisse plus de latitude aux propriétaires, comme vous le suggérez, les loyers vont augmenter, les immeubles, on l'espère, vont être mieux entretenus, ouais. Mais c'est la personne qui occupe le loyer qui va changer. La personne qui est une personne à faible revenu va devoir déménager. C'est ce qu'on appelle le processus de gentrification, là, les gens qui doivent quitter leur propre quartier parce qu'ils sont plus capables de suivre le coût. Là-dessus, il n'y a pas de solution simple, là, entendons-nous. Là. Mais présentement, aller dans le sens que vous suggérez aurait peut-être des effets positifs pour l'entretien des immeubles, mais aurait clairement un effet négatif. C'est-à-dire que ça chasserait des gens de leur propre loyer, finalement, ce qui n'est quand même pas un objectif si intéressant ça à poursuivre. Après ça, comment chercher un équilibre pour pallier, pour maintenir ensemble ces deux préoccupations-là? Ça, évidemment, là, j'ai malheureusement pas de solution miracle pour vous aujourd'hui. Là.
Merci, M. Hurtault. Discussion fort intéressante.
Oui, absolument.
Merci à vous.
OK, bonne journée. Philippe Hurtault est chercheur à l'Institut de recherche d'information socio-économique. Et dans cette période de l'année où je sais que vous êtes plusieurs à être dans la boîte puis à préparer le déménagement, aller chercher le troc samedi matin, sachez que je compatis. Mais moi, c'est fait!